Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Il est 20h, le point sur l'information avec Isabelle Piboulot et ensuite face à Rioufol.
Pour défendre la réforme contestée des retraites, Emmanuel Macron reconnaît qu'il aurait dû se mouiller davantage. C'est ce qu'il a déclaré lors d'un échange avec des lecteurs du Parisien. Un entretien quasiment un an jour pour jour après sa réélection. Le chef de l'État, qui a réaffirmé sa confiance envers Elisabeth Borne, compte se réengager dans le débat public en ces temps difficiles. Les incivilités se multiplient dans le centre hospitalier d'Avignon. Les insultes et les agressions physiques ou verbales sont devenues récurrentes. Caméras de surveillance, patrouilles de policiers, la sécurité a été renforcée. Mais les syndicats réclament une hausse des effectifs du personnel soignant. Ils déplorent un manque de moyens pour soigner correctement les patients. Et puis, nouvel épisode de tension entre Moscou et Washington. Les journalistes russes ne pourront pas suivre Sergueï Lavrov à l'ONU. Le chef de la diplomatie russe sera présent à New York demain et mardi. Mais les États-Unis ont refusé de délivrer des visas aux journalistes. Sergueï Lavrov prévient : nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas cette décision lâche de Washington.
Voilà pour le point sur l'information. À la une de face à Rioufol, quel avenir pour Emmanuel Macron? Le chef de l'État se laisse 100 jours pour relancer le pays, faire oublier la crise de la réforme des retraites. Il entend ce soir se réengager dans le débat public. Immigration, emploi, santé, les grands chantiers s'accumulent, le temps défile et la colère du peuple ne s'estompe pas. Un an après sa réélection, changement, c'est maintenant. On en parle dans un instant. À la une également, aux abonnés absents depuis sa prise de fonction, Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, sort du silence et multiplie les propositions polémiques. Sa nouvelle cible, l'école privée. Il entend mettre la pression sur ses établissements pour imposer plus de mixité. À quoi joue Pape Ndiaye? Élément de réponse dans cette émission. Enfin, vous recevez, cher Yvan, ce dimanche, Clément Veil-Rénal, chroniqueur judiciaire, auteur de Rue Copernic, l'enquête sabotée 43 ans après l'attentat à la bombe faisant 4 morts. La justice a condamné en son absence Hassan Diab à la perpétuité. Vous reviendrez sur ce combat judiciaire. Voilà le programme de Face à Rioufol, cher Yvan, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Véronique Jacquier, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Ravi d'être avec vous ce dimanche. Emmanuel Macron, qui a accordé un entretien fleuve aux Parisiens.
Ouais, encore le temps de le lire.
Écoutez, 16 pages. 16 pages. Beaucoup de choses. Il était face à 11 Français. Il est revenu sur les grands chantiers. Il dit « j'aurais dû mouiller le plus le maillot sur cette réforme des retraites. J'aurais dû être plus présent ». Comprenez que finalement, les ministres et la Première ministre n'ont pas fait le job. Emmanuel Macron, qui s'est également exprimé lundi à la télévision pour clore la réforme des retraites, et il s'est donné 100 jours pour gagner l'apaisement du pays et renouer le contact avec les Français. Est-ce que ces objectifs, 100 jours, est-ce que ces objectifs, ils sont tenables?
C'est intenable. Mais là, on est encore une fois dans le théâtre, dans la communication, dans le bluff, dans le flan, c'est du flan. Les 100 jours, en général, on parle des 100 jours. Hormis les 100 jours de Napoléon qui avait vu sa défaite, et là c'est peut-être bien effectivement le sort qui lui sera promis, je n'en sais rien, mais les 100 jours en général viennent après un état de grâce, c'est-à-dire qu'on donne a priori à celui qui vient d'être élu 100 jours pour essayer de faire de passer en force les réformes les plus difficiles. Le problème c'est que Emmanuel Macron a été réélu il y a maintenant un an, et qu'il n'a rien fait pendant un an. Et donc et qu'il n'y a pas un état de grâce, mais même un état de disgrâce, qui est vraiment très profond et qui touche à sa personne. Donc je ne vois pas très bien comment en 100 jours il va pouvoir se rétablir, d'autant que, mais en même temps on comprend effectivement à travers les propos qu'il a tenus, qu'il tiendra demain dans le Parisien, en disant qu'il veut mouiller sa chemise, qu'il a donc choisi de se montrer à nouveau. Plus on le déteste, plus il veut se montrer à nouveau pour essayer de feindre auprès de son camp, qui commence à se disloquer également, en tout cas une sorte de courage qu'il ne manque pas. D'ailleurs il a un certain courage physique, aller affronter la foule, à affronter les injures détestables, à affronter les colibets, etc. Et on peut penser qu'il se donnerait là, avec cette sorte de parcours du combattant, une sorte d'allure christique presque qui viendrait aider à sa rédemption. Je n'y crois pas un seul instant, car dans le fond, il paye là son caractère très profond, qui est un caractère très clivant. Vous savez, Manuel Valls avait dit de lui, il est méchant. Et il avait dit ça avant qu'il ne vienne lui brosser les souliers pour revenir dans son camp. Il avait dit de lui, il était méchant. Et, effectivement, c'est un petit peu ce caractère-là qui se voit chez cet homme, qui n'arrive à s'affirmer que dans la confrontation, dans le clivage. Alors je vois que dans son interview, il regrette d'avoir dit de ceux qui passaient dans les gares, que de ceux qui ne sont rien, il a reconnu qu'il y avait une faute à avoir dit ceci.
Bon, c'est... Il en assume d'autres. Hein. Il assume, par exemple, traverser la rue pour obtenir un job.
Oui, d'accord. Bon, c'est très bien. Mais moi, j'attendrai qu'il s'excuse pour dire j'ai bien envie d'emmerder ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Parce que là, avec ce fiasco, quasiment ce fiasco des vaccins, j'aurais bien aimé qu'il esquisse une sorte d'autocritique. Et puis, je l'ai entendu donc lundi dire « je vais vers l'apaisement, 100 jours d'apaisement ». Et Le Monde, le lendemain, donnait une petite phrase de lui qui disait « il faut être dur avec ceux qui veulent nous crever la paillasse ». Donc, on voit qu'à chaque fois, malgré tout, dans ce tempérament très narcissique, il ne supporte pas la critique, il ne supporte pas d'être mis en question. D'ailleurs, il ne supporte pas d'assumer ses propres responsabilités. Vous avez laissé comprendre qu'il disait de sa première ministre qu'elle était la première responsable, dans le fond, du fiasco des retraites. C'est un petit peu ce qu'on croit comprendre. Donc, il est quand même, il a cette position d'un homme qui est ressenti, en tout cas, comme n'aimant pas le peuple, en tout cas, le peuple ordinaire, le petit peuple. Et donc, c'est une des raisons qui me fait dire que, naturellement, cet apaisement sera inatteignable. L'autre raison est qu'au-delà même de sa personne, il paye ce qu'il est. Il paye le symbole de ce qu'il représente depuis maintenant 6 ans, c'est-à-dire une oligarchie, c'est-à-dire un homme qui a été choisi, dans le fond, par un système financier, un système politique, un système mondialiste, et que c'est également ce système-là qui est rejeté par les électeurs, par une partie des Français qui attendent d'un pouvoir qu'il se rapproche de lui. Or, ce pouvoir-là, plus il avance, plus il se détache précisément des préoccupations des gens ordinaires. Et d'autant plus que le macronisme est devenu un leurre, est devenu une sorte d'idéologie liquide, d'idéologie flasque, d'idéologie molle dans laquelle on met tout et n'importe quoi. Alors, rappelez-vous que quand Emmanuel Macron est arrivé sur la scène politique en 2016... J'avais moi-même à un moment applaudi parce que l'on disait de lui qu'il était le produit de la société civile et qu'il était le produit d'un progressisme révolutionnaire. Le président avait écrit un livre qui s'appelait Révolution et on allait voir ce que l'on allait voir. En fait, on s'est aperçu naturellement que cette société civile était d'une société très privilégiée, celle d'une sorte des gagnants de la mondialisation et que, à travers le macronisme, le quoi qu'il en coûte qui en est sa substance même, a montré, le quoi qu'il en coûte en était une autre chose, mais que le en même temps, qui était quand même la substance du macronisme, c'est-à-dire cette manière d'être hors dehors des partis, d'être en dehors de la droite et de la gauche, et d'aller dans le sens du vent en fonction des péripéties du moment, que ce en même temps-là a rendu une doctrine totalement illisible. Il n'est peut-être pas besoin de vous faire des dessins, mais... cela se voit sur les grands projets, sur les 3 grands projets qu'il a annoncés lundi, dans lesquels il y aura en vrac et le travail et l'ordre républicain et le progrès pour mieux vivre, qui sont tous des procédés de communication. J'ai cru comprendre également que dans l'interview qui paraît demain, il engrange encore à nouveau d'autres sujets épars afin de feindre le mouvement. Et d'ailleurs, lui-même a dit « je n'ai pas le droit de m'arrêter ». Donc il est dans ce que Taguieff avait appelé le bougisme, c'est-à-dire qu'il feint le mouvement pour ne pas tomber, comme pour faire du vélo, si vous vous arrêtez, vous tombez. Et donc il est dans la perspective d'une sorte de canard sans tête, si je puis dire. Et naturellement, cela pose un certain nombre de problèmes.
16 pages de en même temps, Yvan Rioufol. Je peux vous assurer que je rejoins votre position quand vous dites que ça rend illisible un peu le projet d'Emmanuel Macron. Il explique qu'il aurait dû mouiller le maillot, que finalement ses ministres n'ont pas fait le job. Mais en même temps, il accorde toute la confiance à la première ministre, explique-t-il. Au moins a-t-il reconnu la colère exprimé contre sa réforme. Et d'ailleurs, il a dit, on peut tout à fait contester le président, mais on doit toujours lutter contre la violence et l'incivisme.
C'est-à-dire que le grand problème d'Emmanuel Macron, outre sa personne, c'est son approche du réel. Encore une fois, je pense qu'il a un problème avec le réel. Il vit dans une sorte de métavers. Et là, je me suis félicité, en effet, qu'il ait enfin compris qu'il y avait une colère. J'avais plaisanté à un moment donné, ici même, sur ce plateau, de la manière dont, au Salon de l'agriculture, il avait dit à nouveau « je ne sens pas la colère ». C'était il y a quelques mois, après l'avoir dit 6 mois avant que les gilets jaunes ne déboulent sur les Champs-Élysées, il avait dit la même phrase, je ne sens pas la colère. Donc là, on voit qu'au moins, il prend acte de cette irritation profonde, mais en même temps, il dit qu'il ne voit pas qu'il y a une crise de la démocratie. Donc c'est un faux aveu, c'est un aveu qui est un aveu à demi-mot. Et pour le reste, je suis désolé de dire qu'il va contourner le réel à nouveau comme il le fait depuis toujours. C'est-à-dire que je l'ai entendu dire également d'une manière un peu fanfaronne de ne rien lâcher, c'est ma devise. Parlant des retraites, on peut lui reconnaître peut-être en effet qu'il n'a pas lâché sur les retraites, c'est une affaire entendue. On pourrait d'ailleurs s'interroger de savoir pourquoi cet homme qui s'en appelle toujours à la diversité ne veut pas prendre en considération les diversités des situations individuelles de ceux qui partent en retraite. De faire une retraite comme ça abrupte pour 64 ans pour tous, ça pouvait être également questionné. Mais au-delà de cela, je suis prêt à démontrer qu'il a lâché sur tout. Il n'a peut-être pas lâché sur les retraites, mais il a lâché sur tout le reste. C'est-à-dire que celui qui se présentait comme étant réformiste et qui allait transformer la France ne l'a pas transformé en 6 ans. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas désendetté, mais il l'a au contraire endetté. Il n'a pas naturellement essayer de suppléer à l'effondrement des services publics. Il n'a rien tenté de résoudre sur les grands sujets du moment. Et sur l'immigration, je l'ai entendu dire, et il le redit demain, je crois bien, qu'il va s'attaquer à l'immigration clandestine. Mais ce n'est pas l'immigration clandestine qui est le premier sujet aujourd'hui des Français, c'est l'immigration légale. C'est à l'immigration légale qu'il faudrait s'attaquer, à l'accession à la nationalité qui est ouverte à tous. C'est à cette immigration qui fait venir près de 500 000 personnes par an. Alors, et sur l'immigration clandestine, le ministre de l'Intérieur va s'agiter beaucoup à Mayotte, parce que Mayotte devient un petit peu l'épicentre de ce que représente en effet une immigration clandestine qui est en train de subvertir un département français, certes, mais vous avez vu qu'également au Parlement européen, les députés de la majorité macroniste ont refusé d'avaliser une grande décision, d'ailleurs qui a été prise un petit peu dans l'indifférence générale du Parlement européen, de financer des murs afin de protéger l'Europe. C'est-à-dire que là, on tombe vraiment dans ce qui était rejeté comme une abomination il n'y a pas si longtemps que cela, et singulièrement par les macronistes qui s'accrochent encore à cette fiction de dire que l'on pourrait limiter l'immigration clandestine simplement par des mots et par des jolies phrases. Et donc on est là effectivement dans cette incongruité là.
Un projet de loi sur l'immigration avant l'été et qui ne sera pas finalement réduit. Vous savez que là aussi on était dans l'incompréhension sur ce fameux projet de loi. Véronique Jacquier. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron peut convaincre 100 jours, c'est suffisant avec tous ces chantiers-là ?
Il ne va pas faire en 100 jours ce qu'il n'a pas fait en 6 ans, ça c'est sûr. Et il y a quelque chose, moi, qui me marque, c'est qu'un président, normalement, quand il prend la parole, que cette parole doit être présidentielle, on est censé se dire, tiens, que va-t-il annoncer pour que nous avancions ensemble, que nous réformions le pays ? Et on a l'impression maintenant que les Français se disent, oh là là, mais qu'est-ce qu'il va nous annoncer encore ? C'est-à-dire que, dès le départ, la posture de 3 Français sur 4, puisqu'un sondage est paru ce matin sur CNews, où le président de la République était impopulaire pour 3 Français sur 4, eh bien, c'est qu'est-ce qu'il va nous annoncer encore ? Et donc, on a ce sentiment que les Français sont exaspérés et ne l'écoutent plus. Pourquoi ? La première chose, c'est sur la forme, c'est que on est d'accord avec tout ce qu'il dit. Bien entendu, il faut réindustrialiser le pays, bien entendu. Le travail, l'ordre républicain, l'écologie, bon, le progressisme, ça c'est autre chose. Mais on est tous d'accord sur le fait qu'il faut avancer sur ces valeurs cardinales. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut remettre en marche les services publics. En revanche, malgré tout ce qu'il dit, et ça dès le début d'ailleurs de son premier quinquennat, Il avait dit nouvelle méthode pour que nous avancions tous ensemble. Et on voit bien au bout de 6 ans qu'il n'y a toujours pas de nouvelle méthode et qu'on n'avance toujours pas tous ensemble. Il a dit des dizaines de fois, je vais me réinventer, je vais gouverner avec vous. Il a dit après les gilets jaunes, il a dit après le Covid, il a dit dès sa réélection et tout de suite après les élections législatives. Il ne cesse de le dire et on voit bien en fait que ça ne prend plus. Après sur le fond, et ça c'est beaucoup plus grave, alors pourquoi il ne peut pas avancer? Pourquoi finalement le macronisme ne décolle plus et ne décollera pas? Un, parce que bien entendu, il n'a pas de majorité. Deux, parce qu'il veut faire des alliances. Il faudrait qu'il aille les chercher à droite. Or, il envoie en permanence des signaux à son petit résidu de gauche progressiste, ne serait-ce justement que quand il parle de progrès comme une nouvelle valeur cardinale. Et donc, en fait, quelque part, les Français ne comprennent plus ce président parce qu'il se rêve en Obama. Il se rêve un peu en Obama français pour une gauche à l'américaine. Mais chez nous, je pense que ça ne fonctionne pas. Et surtout, le pays va tellement mal que ça ne peut pas prendre racine. Ensuite, deuxième chose pour aller sur le fond. Comme l'a dit Yvan, il n'y a effectivement pas de réforme précise, il n'y a pas de cap. Par exemple, souvenez-vous, lundi, il a dit les services d'urgence, d'ici 2024, on va régler le problème. Enfin, les services des urgences qui sont engorgés, il faut une vraie réforme de l'hôpital, il faut de fait donc s'attaquer à la médecine de ville. Enfin, c'est tout un ensemble qui doit être pris, mais sérieusement, à bras-le-corps. Et on voit que ça n'est toujours pas le cas en 6 ans. Et pourtant, souvenez-vous ce qu'il avait dit au moment du Covid. Hein. Il avait dit que c'était le nerf de la guerre pour réformer ce pays et même pour qu'il acquiert une nouvelle souveraineté par rapport à la question des médicaments, etc. etc. Mmh. Bon, on voit bien qu'il a de plus en plus de mal à être crédible, ce président.
Yvan Rioufol, comment voyez-vous l'avenir d'Emmanuel Macron ?
L'avenir d'Emmanuel Macron m'importe peu, à vrai dire, mais ce qui m'importe, c'est l'avenir de la France. Or, l'avenir d'Emmanuel Macron est lié aujourd'hui, enfin, l'avenir de la France est lié à celle d'Emmanuel Macron et la question que l'on doit se poser est de savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire durant ces 4 ans qui viennent? Il a encore 4 ans à tenir, 4 ans à tenir sans majorité, 4 ans à tenir sans projet, 4 ans à tenir sans idéologie fixe et sans projet fixe, sans idée. Sans... Et donc, naturellement, on peut être très, très inquiet. Et on voit bien un petit peu la stratégie qui se dessine à nouveau. C'est une stratégie qu'il avait appliquée après les Gilets jaunes, qu'il avait appliquée également... après le Covid, c'est-à-dire une stratégie qui consistera à instrumentaliser des peurs, la peur du populisme pour les Gilets jaunes, la peur de la peste noire pour le Covid. Là, ça va être la peur du chaos et de la chienlit pour les manifestations de casseroles qui reproduisent d'ailleurs avec une sorte de visibilité sonore ce qu'étaient les Gilets jaunes avec la visibilité visuelle de ce pléonasme-là, afin de faire comprendre que vous êtes toute une partie d'une population qui cherche par tous les moyens à se faire entendre de ce pouvoir sourd et aveugle. Donc on voit bien qu'il y a des grands axes qui vont être à nouveau remis, exploités par ce président-là, mais cela ne va pas pouvoir tenir. Je pense qu'un président ne peut pas tenir seul face à un peuple qui se détourne de lui à ce point-là. Et encore une fois, ce n'est pas simplement ce président-là qui pose problème, c'est tout ce qu'il représente de 40 ans, dans le fond, de pouvoir politique qui s'est détaché des réalités, qui s'est détaché d'une partie d'un peuple qui était considéré comme étant un peuple infréquentable. Donc je pense que le président de la République ne peut pas faire l'économie d'aller vers le peuple à travers des élections législatives, à travers des référendums. J'ai entendu qu'il voulait peut-être relancer des référendums, mais certainement pas, en tout cas, sur les retraites. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse non plus. Et alors j'entends dire également que Nicolas Sarkozy se présenterait et serait prêt à être le prochain Premier ministre. Enfin, ce serait une situation totalement incongrue. J'entends bien naturellement qu'il est quasiment en situation de cohabitation, mais la cohabitation ne peut s'établir qu'à travers l'expression d'un vote à travers des législatives. Il faudrait donc qu'il y ait d'abord un vote à travers des législatives avant que le président ne désigne un autre Premier ministre. Ce ne pourra donc pas être Nicolas Sarkozy. Et on verra bien qui sortirait vainqueur de cette élection des législatives. Si c'était le Rassemblement national qui sortait vainqueur des législatives, ce serait naturellement une personnalité du Rassemblement national qui devrait être Premier ministre. Mais pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Et on voit bien qu'à cette perspective épouvantable que d'avoir à questionner le peuple et à cette perspective épouvantable que d'avoir à admettre qu'il y aurait une alternative, peut-être, avec le Rassemblement national pour l'instant, en attendant que les droites se réveillent, mais pour l'instant, elles se tirent dans les pattes, je pense qu'on est prié d'attendre et d'attendre dans le chaos.
En un mot,
on peut imaginer, je ne suis pas Madame Irma, mais on peut programmer quand même ce qu'il va nous annoncer. Il va nous annoncer pléthore de conventions citoyennes, il va essayer de faire jouer plein pot le Conseil national de la refondation, le tout en essayant de squeezer un peu le Parlement, et voilà, une pseudo-démocratie participative, alors qu'il ne sait pas donner aux Français les moyens de s'exprimer via le référendum. Donc tout ça va donner encore des situations très incongrues pendant les 4 ans qui viennent.
Oui, il compte bien retourner sur le terrain dès la semaine prochaine, et il y aura aussi des petits débat. On a vécu les grands débats après les gilets jaunes, ça couchait d'une souris. Le petit débat, on verra ce qui va se passer. Pape Ndiaye, il nous reste quelques minutes, on a pris le temps vraiment de rester sur Emmanuel Macron, mais Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation, a annoncé son intention dans le Figaro d'imposer des pourcentages de mixité sociale dans les établissements privés sous contrat. Que vous inspire, Yvan, cette annonce ?
Écoutez, je ne comprends pas Pape Ndiaye, très franchement. Je trouve cet homme dangereux. Je suis prêt à le qualifier de naufrageur. Non seulement il ne sauve pas l'école, il ne cherche pas à la sauver du naufrage et de tout ce que l'on peut connaître du désastre éducatif depuis. Alors ça ne date pas de lui, naturellement. Enfin, du désastre éducatif, du désastre des transmissions, de même de savoir lire, écrire, compter, c'est devenu quelque chose d'inatteignable pour une partie des sixièmes. Et donc, plutôt que d'avoir à s'attaquer à ceci, je l'observe qu'il essaye de mettre de l'idéologie en disant qu'il faut maintenant éduquer les jeunes élèves à l'éducation sexuelle ou au paritarisme ou à l'égalité homme-femme, etc. Et qu'en plus de ceci, il est en train d'accuser, enfin, il est en train de vouloir, plutôt que de régler le problème de l'école multiculturelle, dans le fond, qui est très liée à une immigration qui ne s'intègre plus, plutôt que d'avoir à régler ce problème-là, il voudrait importer les maux dont souffre cette école publique dans l'école privée qui, pour l'instant, est vue comme un refuge par un certain nombre de familles, dont des familles, d'ailleurs, d'enfants d'origine immigrée qui y mettent leurs enfants parce que ces écoles privées privilégient davantage l'ordre et le respect des maîtres. Or, à vouloir maintenant imposer des mixités, ils n'osent pas dire le terme de quota, mais d'imposer des mixités sociales au cœur des écoles privées qui, pour l'instant, tiennent vaille que vaille, serait à nouveau mettre, me semble-t-il, la tête sous l'eau encore davantage afin de les égaliser dans leur perspective avec le désastre de l'école publique. Donc je trouve que ceci est totalement aberrant, d'autant plus aberrant qu'il prend d'autres décisions qui mettent en cause, qui ébranlent également le combat qui avait été lancé par son prédécesseur sur la laïcité. Donc je trouve que cet homme devient très dangereux.
Vous faites allusion, quand vous parlez de laïcité, aux nouvelles missions dévolues au Conseil des sages de la laïcité.
Oui, c'est ça. Oui. C'était un conseil qui avait été mis en place en 2019 pour donner des armes à l'éducation nationale afin de répondre aux offensives de l'islam politique au cœur de l'éducation nationale. Alors, on avait bien vu que l'éducation nationale avait été lamentable, notamment pour ne pas prévenir précisément l'assassinat, l'égorgement, la décapitation de Samuel Paty. Et donc, il y avait là une défense d'une laïcité offensive qui ne voulait pas transiger, dans le fond, avec les exigences de visibilité de cet islam politique. Or, une série de nominations et par des objectifs qui ont été dévolus par Pape Ndiaye à cette structure, on se rend compte que Pape Ndiaye est en train d'aller vers une conception à l'anglo-saxonne, une conception communautariste, une conception à des accommodements raisonnables qui cassent naturellement, d'autant qu'il a donné pour mission à cette commission de défendre davantage le racisme et les discriminations. C'est-à-dire ce sont des arguments qui peuvent être instrumentalisés, qui sont instrumentalisés par tout cet islam politique qui, précisément, dès qu'il est attaqué, se prétend être victime de racisme ou de discrimination afin de pouvoir s'asseoir dans son différentialisme. Et donc, je trouve, en effet, épouvantable, dans le fond, que face à cette école qui tombe, qui se noie sous nos yeux, on ne lui envoie pas des bouées, mais plutôt on lui met des pierres à nouveau au pied, en tout cas, pour la noyer davantage.
En 30 secondes, Véronique Jacquet, à quoi joue Pape Ndiaye ?
Alors, je partage complètement le constat d'Yvan, bien entendu. Deux remarques. Un, le ministre de l'Éducation nationale, oui, est un déconstructeur, alors qu'il met ses enfants à l'école alsacienne. Hein, donc, il y a quand même un gros paradoxe. Oui. Deux, le classement PISA, vous savez, le fameux classement PISA, dès les années 2000, disait que les élèves français n'étaient pas au niveau, etc., etc. Donc, ça fait 23 ans qu'on répète les mêmes choses. Donc, en fait, il y a un problème avec ce ministre de l'Éducation nationale, si j'ose dire. Quand je dis problème, c'est évidemment par rapport aux attentes pour relever un niveau. Le deuxième problème, si j'ose dire, c'est que depuis 23 ans, on a quand même une administration qui est complètement idéologisée, qui est pour un égalitarisme exacerbé. Et donc, en fait, derrière Papdai, il y a le fait qu'on laisse toutes les clés à l'administration. Ça, c'est un problème très franco-français. Et voilà qu'il faut aussi faire la révolution de cette administration centralisée.
La publicité, dans un instant, vous allez recevoir Clément Veil-Reynald, journaliste chroniqueur judiciaire. Et vous allez revenir sur l'un de ses ouvrages, Rue Copernic, l'enquête sabotée, puisque la justice a rendu sa décision vendredi en condamnant à la perpétuité en son absence à Hassan Diab. Ça va être un entretien passionnant, donc restez avec nous. ...20h30 sur CNews, dans un instant, c'est la suite de Face à Rioufol. Mais avant cela, le point sur l'information, Isabelle Piboulot.
La fin de l'inflation n'est pas pour tout de suite. Concernant les prix des produits alimentaires, la situation restera difficile jusqu'à la fin de l'été, prévient Emmanuel Macron dans Le Parisien. Les prix de l'alimentation ont grimpé de près de 16% en mars, près de 15% en février. Face à ces envolées, le chef de l'État a plaidé pour que le travail paye mieux, renvoyant la balle aux employeurs et au dialogue social. Le logement subit un choc d'une violence folle, c'est ce qu'affirme la présidente de Nexity dans le JDD. Plus de 4 millions de personnes sont mal logées en France. Selon le patron du MEDEF, la crise du logement devrait être la grande cause nationale de ces prochaines années pour Emmanuel Macron. Le gouvernement présentera des propositions pour répondre à cette crise le 9 mai prochain. Et puis au Soudan, plusieurs pays évacuent leurs ressortissants et leurs diplomates, parmi eux la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la Suède. D'après Paris, deux avions avec une centaine de personnes à leur bord chacun ont quitté Khartoum. Depuis le 15 avril, les combats entre armées et paramilitaires font rage au Soudan, avec plus de 420 morts et 3700 blessés.
Merci, chère Isabelle, pour le point sur l'information. On est toujours avec Yvan, bien sûr, avec Véronique. Et nous recevons Clément Veil-Reynald. Merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Bonsoir, vous êtes journaliste, chroniqueur judiciaire. Vous avez écrit, entre autres, le fusillé du mur des cons.
Ça, c'était il y a 10 ans.
Ça, c'était il y a 10 ans, mais c'est comme si c'était hier. Et rue Copernic, l'enquête sabotée. Je rappelle que 43 ans après l'attentat à la bombe faisant 4 morts rue Copernic, la justice a condamné vendredi, en son absence, Hassan Diab à la perpétuité. Pourquoi avoir invité, cher Yvan, Clément Veil-Reynald ce dimanche?
Pour deux raisons. Parce que c'est un journaliste qui a du flair. C'est toujours intéressant d'avoir un journaliste qui sent bien les choses. En plus, c'est un journaliste qui a beaucoup travaillé sur les opérations de désinformation, sur les opérations de propagande médiatique. Et puis surtout, et qui avait dénoncé le mur des cons il y a 10 ans. Mais surtout, il a eu ce flair invraisemblable il y a 3 ans de percevoir à travers cette enquête sur l'attentat de la rue Copernic. Donc c'était il y a 43 ans, 4 morts. Cela visait la synagogue de la rue Copernic, et immédiatement avait été accusé des mouvements néo-nazis, des mouvements nazis. Et Clément Veil-Reynald a fait une enquête très approfondie pour montrer d'abord qu'il y avait une désinformation sur cette piste-là. Il faudra savoir pourquoi est-ce que on a voulu s'aveugler sur ce nouvel antisémitisme islamique, et puis surtout sur l'incroyable légèreté qui a été celle de cette enquête sur l'attentat lui-même, qui a duré 43 ans. Et qui a débouché aujourd'hui sur une condamnation de quelqu'un dont deux juges d'instruction ont prononcé un non-lieu. Et donc ce quelqu'un qui avait été arrêté est reparti au Canada.
Oui, parce que quand vous parlez de légèreté, il faut d'abord rendre hommage à plusieurs magistrats et à tous les policiers qui, depuis 43 ans, ont mené une enquête digne d'un thriller, que je raconte dans mon livre, qui a permis d'identifier l'un des suspects qui aujourd'hui est coupable, puisqu'il a été condamné, et dire oui, c'est le retrouver monsieur Hassan Diab, un citoyen libanais qui avait refait sa vie au Canada, qui était devenu professeur d'université de sociologie à l'université d'Ottawa. Et il faut rendre hommage à tous ces magistrats qui ont fait une enquête de fouilles.
Minutieuse.
Une enquête du 20e siècle. À l'époque, oui, il n'y a pas d'ADN, absolument, pas de caméra de surveillance, pas de téléphonie. Oui. Ils retrouvent des indices infimes, puis des pièces plus importantes, puis des témoignages. Et ils retrouvent Hassan Diab, qui a refait sa vie au Canada. Et il faut leur rendre hommage parce que leur enquête a permis on fait un bref résumé de ce qui s'est passé, a permis en 2014 d'obtenir l'extradition de Hassan Diab. Les autorités canadiennes ont accepté, bien que Hassan Diab avait obtenu la nationalité canadienne, l'ont extradé. Il est arrivé en prison en France.
Oui,
seulement voilà, au bout de 3 ans, il y a eu un turnover obligatoire au pôle antiterroriste. De nouveaux juges d'instruction ont examiné le dossier. Et tout ça, je le détaille dans mon livre, sous un prétexte, il faut le dire, d'une légèreté incroyable. Ils ont accordé un non-lieu à M. Hassan Diab, qui a pu sortir de prison, c'était en 2018, sortir de prison le jour même, prendre l'avion. Le parquet, il faut le dire, s'est arraché les cheveux, a fait appel le jour même, mais la procédure était ainsi faite que ça ne pouvait pas bloquer la libération de M. Hassan Diab.
Et quelle a été la conviction de ces deux juges d'instruction qui ont succédé donc au juge d'instruction Trévidic qui, lui, avait accablé...
Il y avait des éléments extrêmement centraux qui, là, après, ont été rappelés par la cour d'assises vendredi dernier, ce qui a entraîné la condamnation. Il y avait des indices, plus que des indices, des charges très sérieuses qui ont entraîné la condamnation de Hassan Diab. Oui. Eh bien, les nouveaux juges d'instruction, en 2018, se sont basés sur des témoignages, il faut le dire, très... fantaisiste, très léger, brusquement, Hassan Diab, qui refusait de parler jusqu'à présent, a dit « Ah mais, il y a des gens qui peuvent attester de ma présence à Beyrouth le jour de l'attentat. » Il produit ses témoins, ce sont d'anciens, même pas des camarades, d'anciennes connaissances de l'université de Beyrouth, qui arrivent devant les juges d'instruction français, qui disent « Oui, nous nous souvenons, Hassan Diab, il y a 36 ans, était dans l'amphithéâtre avec nous, le jour de l'attentat. » Ou à peu près.
Cela a suffi.
On leur pose quand même quelques questions. On leur dit mais vous le connaissiez bien, c'était un bon ami à vous. Non, pas plus que ça, mais on se rappelle, il était là. Et sur la foi de ces seuls témoignages, Hassan Diab a été libéré et il s'est retrouvé au Canada. Entre temps, comme je vous le disais, le parquet a fait appel. L'appel a fini par arriver devant la chambre d'instruction, qui a annulé, c'est exceptionnel en matière d'antiterrorisme, c'est une première, la chambre d'instruction, en 2021, annule le non-lieu des juges et renvoie Hassan Diab devant une cour d'assises qui explique le procès qui s'est déroulé durant 3 semaines à Paris. Seulement voilà, l'oiseau s'était envolé, si j'ose dire, et Hassan Diab était libre, il y avait un non-lieu, on ne pouvait plus renvoyer comme ça un mandat d'arrêt de manière automatique, ce qui explique, voilà la situation invraisemblable dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, la cour d'assises spéciale de Paris, compétente en matière de terrorisme, à l'issue d'un procès extrêmement sérieux, extrêmement argumenté, a donc condamné Hassan Diab, en estimant qu'il était bien l'ancien membre du FPLP, l'organisation terroriste palestinienne, qui avait posé la bombe rue Copernic et qui avait dévasté la rue, tué 4 personnes, fait 40 blessés. Mais M. Hassan Diab est aujourd'hui en liberté au Canada. Il se présente, il a encore donné une interview avant-hier soir à la télévision canadienne, il se présente comme le Dreyfus canadien, comme un universitaire innocent victime d'une situation kafkaïenne. Et aujourd'hui, il n'est pas sûr du tout que l'on puisse obtenir à nouveau une extradition. C'est en ce sens que le titre de mon livre, c'est « Rue Copernic, l'enquête sabotée ».
Absolument. Et ce qui est très intéressant également dans votre livre, c'est que vous montrez comment, dans le fond, une opération de manipulation de l'opinion a été montée dès le départ de cet attentat. Et on verra ensuite cette manipulation de l'opinion prendre corps dans d'autres attentats par la suite, afin de montrer une piste fausse, la piste de l'extrême droite, toujours l'extrême droite, en l'occurrence c'était la piste nazie, afin de disculper cette piste palestinienne qui était déjà quasiment une évidence dès le départ. Rappelez-nous quels étaient les ressorts, dans le fond, de cette opération-là et qui en étaient, dans le fond, les instrumenteurs.
Alors, pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui ont vécu cette période, qui était à Paris, en France, dans les années 80, en octobre 80, il faut se rappeler que dès le soir de l'attentat, un mot d'ordre un peu... aussi mystérieux qu'automatique, est lancé, repris en cœur par les médias, repris par les politiques, repris par toutes sortes de relais d'opinion. On dit ce sont des néo-nazis qui ont visé cette synagogue et qui ont commis cet attentat antisémite. Ce sont des néo-nazis qui ont posé la bombe. Alors on désigne un groupe néo-nazi aussi fantomatique qu'insaisissable, mais il faut savoir que cette fausse piste n'est pas à mettre sur le compte d'une simple surenchère de la presse que l'on connaît dans les premières heures quand on manque d'éléments. Durant les semaines et les mois qui vont venir, il va y avoir toute une floraison de tribunes dans des journaux comme Le Monde. Chaque jour, chaque semaine, on va avoir droit à des imprécations sur la montée du nazisme en France. Il va y avoir une réelle manipulation politique. Je me suis replongé dans la presse de l'époque. Voilà, j'ai fait un peu un travail d'historien. J'ai un peu, avec le recul, c'est insensé. On va expliquer pendant tout l'automne, pendant tout l'hiver, jusqu'à l'élection présidentielle de 1980, on explique que la France est menacée par le nazisme, que le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, est entouré de nazis, que la police française elle-même aurait laissé perpétrer cet attentat parce que la police est elle-même infiltrée par les nazis. Donc il va y avoir une sorte d'intoxication de l'opinion publique.
Avec des grandes manifestations. Et vous dites également, dans le fond, que la défaite de Giscard d'Estaing serait due en partie, dans le fond, à cette grande manipulation, selon vous.
C'est pas moi qui le dis, ça a été après écrit partout, avec le recul. Alors je rappelle qu'il va y avoir 200 000 personnes qui vont manifester à Paris avec
À l'appel de qui, alors?
Du MRAP, notamment, il n'y avait pas encore SOS Racisme à l'époque, mais de toutes les organisations, en tout cas, les grandes organisations de gauche, d'extrême gauche, affiliées au Parti communiste, vont prendre la tête de cette manifestation, et force est de constater l'ensemble de la société française va tomber dans le panneau.
Et que l'on comprenne bien, dès cette époque-là, et très vite, la piste palestinienne était malgré tout une piste arrêtée.
On est bien d'accord. Oui, alors donc, ce que je vous disais, c'est pas moi qui le dis, tous les historiens s'accordent à dire que cet attentat de la rue Copernic et la manipulation qui s'en est suivie a joué certainement, a pesé dans l'élection présidentielle qui est arrivée quelques mois plus tard, la fameuse élection du 10 mai 81, et qui a vu l'élection historique du premier président socialiste de la Ve République et la défaite de Giscard d'Estaing.
Oui, oui, j'entends bien. Mais ce procédé... ce procédé de vouloir dissimuler, dans le fond, des origines...
Ah oui, oui, voilà.
...est un procédé qui a également servi de prétexte à d'autres attentats par la suite. Racontez-nous quels sont les autres attentats qui ont...
Alors, comme vous l'évoquiez... Donc, il y a une énorme manipulation, puisque, en fait, aujourd'hui, on sait que dès les premières heures, les premiers jours de l'enquête, la police, elle, la brigade criminelle, va identifier ce qu'il est convenu d'appeler une piste moyenne-orientale, c'est-à-dire la piste d'un groupe palestinien. Et quand on regarde un peu tout ce qui va se dérouler dans les années à venir, c'est un peu l'objet de mon livre, c'est qu'on s'aperçoit que cette manipulation... à propos de l'attentat de la rue Copernic, est un peu la matrice de toutes les manipulations à venir. Vous savez, cette fable, ce chiffon rouge que l'on agite en disant « Attention, attention, la France serait menacée par le fascisme, la France serait menacée par l'extrême droite, par des néo-nazis », c'est quelque chose après qui va revenir une sorte de fausse piste, d'intoxication.
Donnez-nous des exemples.
Par exemple, l'un des plus récents, rappelez-vous, au moment des attentats de Toulouse,
Mohamed Merah,
c'est-à-dire de Montauban et de Toulouse, un certain nombre de journaux très sérieux évoquent dans les premières heures un attentat raciste qui viendrait d'un groupe pareil. On invente un groupe, un mystérieux groupe de soldats d'extrême droite qui voudraient se venger. Alors on dit, regardez, les soldats de Montauban étaient tous noirs ou arabes, donc c'est un attentat raciste. Et puis quand quelques jours après, il y a l'attentat contre l'école juive à Toulouse, on dit oui, oui, et on sait que c'est le même tireur, puisque l'attentat se déroule selon les mêmes circonstances. On dit, la piste d'un groupe d'extrême droite néo-nazi est non seulement évoqué, mais martelé par un certain nombre de spécialistes convoqués pour la circonstance sur les plateaux télé ou dans les colonnes de certains journaux.
Véronique Jacquet.
Oui, on comprend bien la matrice de la propagande, mais là, en l'espèce, pour l'attentat de la rue Copernic, qui avait intérêt à instrumentaliser à ce point? Est-ce que vous donnez des noms? Vous avez parlé du Parti communiste en tête d'une manif de 200 000 personnes, mais est-ce qu'on peut dire qui avait vraiment intérêt à faire monter cette peur de la peste brune, disons les choses?
Je ne sais pas, je ne suis pas dans le... Je me suis intéressé à l'enquête, je ne suis pas dans le cœur du complot, mais il suffit de regarder qu'il y a bien eu une fausse piste absolument énorme, une manipulation gigantesque. Alors il faut savoir quand même que cette fable de nazis qui menacerait les démocraties européennes est une, dès les années 50, est une vieille fable du KGB. Il s'agit de dérouter l'opinion, de dangers qui sont autrement plus périlleux et autrement plus éminents, en disant les fascistes, le fascisme va relève la tête. C'est cette formule très éculée du ventre encore fécond de la bête immonde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient périodiquement. Alors bon, là on tombe peut-être dans le... On ouvre d'autres fenêtres, on tombe peut-être dans le domaine de la polémique, mais c'est vrai par exemple que depuis quelques décennies, on a beaucoup entendu dans certains éditoriaux, dans certains courants de l'opinion, on nous a beaucoup mis en garde contre un danger d'extrême droite, contre une extrême droite qui viendrait menacer les libertés publiques, notamment en France, et il se trouve que tous ces prophètes, tous ces oracles qui nous ont mis en garde n'ont pas vu venir, par contre, le danger du djihadisme et du terrorisme islamiste.
Mais vous allez quand même beaucoup plus loin, parce que vous faites référence dans votre livre, à un moment donné, à un pacte que vous qualifiez de honteux, passé par les autorités, afin de permettre à des organisations terroristes arabes de s'installer sur le territoire français, à condition qu'elles ne perpétuent pas d'attentats sur le sol français. D'attentats sur le sol français.
Oui, à travers l'affaire Copernic, j'ai essayé effectivement un peu d'élargir, et je me suis rendu compte que cette affaire Copernic, finalement, permet de décrypter 50 ans ou plus d'un demi-siècle de l'histoire du terrorisme, notamment palestinien, en Europe. C'est l'une, d'ailleurs, des thèses que je défends, c'est que, pour des raisons un peu mystérieuses, je n'ai pas toutes les réponses, pour un certain nombre de raisons, le terrorisme palestinien constitue, en France, depuis des décennies et encore aujourd'hui, constitue l'angle mort de la lutte antiterroriste. Parce que la libération intempestive de Hassan Diab, qu'on a laissé repartir au Canada, ça n'est pas un événement isolé, ça n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Je rappelle, rappelez-vous dans les années 70, Abu Daoud, l'organisateur de l'attentat des Jeux Olympiques de Munich, c'est pas rien, lors duquel 11 athlètes israéliens ont été assassinés. Dans les années 76, je crois, Abu Daoud est de passage par hasard à Paris. Il est interpellé par la DST. Il y a un scandale énorme. Et brusquement, les pouvoirs publics décident, avec un habillage judiciaire bâti dans l'urgence, décident d'expulser Abu Daoud, de l'exfiltrer en extrême urgence. Il prend un avion pour Alger, où il est d'ailleurs reçu comme un héros et un chef d'État. Quelques années après, il y a, rappelez-vous, l'affaire Georges Abache. C'est une répétition de la même histoire. C'est la deuxième époque, le deuxième épisode. Georges Abache, fondateur du FPLP. Le FPLP qui d'ailleurs est à l'origine de l'attentat de la rue Copernic. Le FPLP qui n'a pas fait que des attentats en Israël, qui est responsable dans les années 70 et 80 de dizaines d'attentats sur le sol européen qui ont fait des centaines de morts. Georges Abache vient, vous vous rappelez, vient se faire soigner en 1993 à Paris. C'était sous la présidence de François Mitterrand. De nouveau, scandale d'État, on lui dit nouvel habillage judiciaire, des juges d'instruction viennent le voir, disent non, finalement, on n'a aucun dossier contre vous, mais surtout, vite, reprenez l'avion avant qu'on change d'avis. Et Georges Abache, effectivement, repart vers Tunis. Et puis, vous le disiez, il y a cet épisode assez incroyable que je relate dans mon livre. Il y a ce que j'appelle le pacte du Lido. Vous vous souvenez, Abu Nidal, l'attentat de la rue des Rosiers, mais d'autres attentats aussi. On disait, ah oui, mais Abu Nidal, il est insaisissable. On ne sait même pas où il est. Il avait pignon sur rue dans plusieurs capitales arabes comme Bagdad ou Alger, mais on disait qu'il était insaisissable. Au même moment, en 1982-83, la DST reçoit à Paris des émissaires d'Abu Nidal et les emmène dîner, tenez-vous bien, au Lido. Et entre deux numéros de striptease des Blue Bell Girls, les responsables de la DST passent un accord avec Abu Nidal et ils disent, bon écoutez, on veut bien fermer les yeux sur vos passages sur le territoire français, vous ne serez pas interpellés, mais en échange, vos bombes, vous allez les faire exploser chez le voisin, en Italie, en Allemagne, en Belgique. C'était avant Schengen. Il faut dire à la décharge de la police française que tout le monde faisait pareil. Il y avait une sorte de lâcheté européenne. Personne ne voulait voir ce terrorisme palestinien.
Il nous reste une minute. Donc vous nous décrivez une sorte de bienveillance vis-à-vis de la cause palestinienne partagée par les autorités françaises.
Par certaines autorités françaises.
Et est-ce que cette bienveillance a été jusqu'à occulter ce nouvel antisémitisme, qui est un antisémitisme porté par cet islam radical qui se dissimulait derrière l'antisionisme, parce que c'est bien de ceci aussi dont on parle.
Oui, c'est pour expliquer ça en une minute. Pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas que ce soit des Palestiniens qui aient commis l'attentat de Copernic, et pourquoi, par exemple, c'est une hypothèse. Pourquoi s'est-on débarrassé de Monsieur Hassan Diab en lui disant rentrez au Canada? Parce que effectivement. Quand il y a un halo idéologique qui fait que quand vous percevez le terrorisme palestinien à travers le prisme d'un romantisme révolutionnaire en expliquant que c'est une cause juste et qu'ils ont raison de se battre, ça pourrait éventuellement se défendre en Israël face aux soldats israéliens, c'est beaucoup plus difficile à justifier quand ces mêmes Palestiniens posent des bombes devant une synagogue du 16e arrondissement à Paris pour tuer des Juifs. Donc voilà peut-être pourquoi, effectivement, voilà les non-dits de l'affaire de la rue Copernic.
Écoutez, un grand merci, Clément Weyrenhald. Je rappelle votre ouvrage, Rue Copernic, l'enquête sabotée, 1980-2023. Merci à tous les trois. Dans un instant, c'est Enquête d'esprit avec vous, Véronique Jacquier. Le sujet de ce soir?
On rend hommage aux 5 prêtres qui ont été béatifiés hier en l'église Saint-Sulpice à Paris. 5 prêtres fusillés pendant la Commune.
Merci beaucoup. L'info se poursuit sur CNews. Merci à Samira Chabi qui a préparé toutes ces émissions aujourd'hui. À la semaine prochaine.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.